Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Il est 19h17, vous êtes sur Europe 1. Merci d'être avec nous et merci pour votre fidélité. La gauche a-t-elle un avenir dans la sphère politique? Une refonte est-elle en marche? Est-elle possible? Mon invité Stéphane Le Foll, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire PS du Mans, ancien ministre de l'Agriculture. Vous étiez opposé à l'accord entre PS, LFI, Europe Écologie, Les Verts, Parti Communiste Français. Qu'est-ce que vous leur reprochez?
Moi, ce que je reprochais, ce n'était pas qu'il y ait un accord. L'union à gauche, ça fait partie des stratégies qu'on connaît. Le problème, c'est que tout ça s'est fait après une présidentielle sans qu'il y ait de véritable travail programmatique, de travail sur un projet. Et on voit bien aujourd'hui, j'ai noté par exemple que les propositions ou les positions que prend Jean-Luc Mélenchon sur les grandes questions de politique étrangère, qui font quand même le cœur de ce qu'on doit porter ensemble quand on veut gouverner, on voit bien qu'il y a des divergences et des différences qui sont profondes et qui marquent en fait un accord tactique qui a été fait rapidement pour résoudre un problème électoral et pour le Parti Socialiste, une question de fond qui est peut-on rester dans un accord avec la NUP quand on voit les divergences qui apparaissent telles qu'elles sont apparues encore cette semaine.
Alors, Stéphane Le Foll, vous venez de parler là justement de Jean-Luc Mélenchon et vous faisiez sans doute référence au plan international avec ce qui se passe entre la Chine, Taïwan et les États-Unis. Jean-Luc Mélenchon, lui, il défend une seule Chine. C'est ce que disent aussi les Chinois face à une potentielle indépendance de Taïwan. Vous vous retrouvez dans ces propos ou pas du tout?
Non, pas du tout. Non. Moi, je pense que la politique étrangère, je l'ai dit, c'est un sujet extrêmement important. Il faut qu'il y ait une cohérence sur la politique étrangère. D'abord à l'échelle européenne, on doit avoir une politique européenne. On doit considérer l'Europe comme un enjeu de la question internationale aujourd'hui dans le monde. Et on ne peut pas, par exemple, et c'était le cas des accords qui ont été signés au moment de la NUP, se dire on va désobéir à l'Europe, ne serait-ce que sur un sujet majeur aujourd'hui, avec la sécheresse qu'on connaît, le réchauffement climatique, s'il n'y a pas l'Europe pour organiser la transition énergétique, pour aider au financement de la transition énergétique, pour produire du droit environnemental à l'échelle européenne, il n'y aura pas de capacité pour chacun des pays à conduire et à mener à bien tout seul la transition énergétique. C'est quand même un sujet majeur aujourd'hui. Et donc, cette question prise par l'angle de la transition énergétique, mais prise aussi sur la question du positionnement de la France, de la gauche française dans l'Europe par rapport au monde d'aujourd'hui, que ça soit avec l'agression de Poutine en Ukraine, ou que ça soit la position de la Chine qui est très claire, un état de système, c'était le principe qui avait été évoqué au moment de Hong Kong et de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. On sait qu'il y a un état, mais il n'y a plus de système.
Alors on va reprendre point par point, parce qu'il y a ici plusieurs points que vous venez d'évoquer. D'abord, est-ce que vous vous retrouvez dans certaines prises de position de la gauche aujourd'hui, notamment sur le fait de ne pas souhaiter l'expulsion de l'imam Iqwissem?
Alors, la question de l'expulsion de l'imam, moi je suis pour être extrêmement clair sur les questions de laïcité, de respect des valeurs de la République, qui sont des valeurs de tolérance. La liberté de conscience doit être assurée à tous, et en particulier aux musulmans, mais de refuser en même temps ce qui, dans la pratique de la religion, pousse cette pratique vers des logiques identitaires et complètement orthogonales avec les valeurs de la République française.
Donc vous êtes pour cette expulsion?
Alors moi, je suis pour cette expulsion. Le ministre de l'Intérieur a décidé une expulsion. Je suis pour une politique de fermeté par rapport à ceux qui font des prêches qui sont contraires aux valeurs de la République. Ça, c'est clair. Alors maintenant, l'expulsion...
Mais est-ce le cas ici? Est-ce le cas ici pour vous?
Est-ce que c'est le cas ici? Alors moi, je n'ai pas regardé ce dossier en détail. Je sais que le tribunal administratif qui a été saisi par les avocats de cet imam a sur soi à l'expulsion, que Gérald Darmanin a fait appel au niveau du Conseil d'État. Donc la procédure judiciaire, la procédure de recours est en cours. On attendra le résultat et ce que dira le Conseil d'État. Par contre, ce que je partage avec Gérald Darmanin, c'est le fait qu'il n'y a pas à tolérer ou à accepter des prêches qui sont contraires aux valeurs fondamentales de la République. Et je répète encore une fois que la République... elle a aussi des valeurs de tolérance et de liberté de conscience qui laissent la place tout à fait à l'exercice de toutes les religions et en particulier de la religion musulmane.
Donc vous vous reconnaissez plus en Anne Hidalgo ou en Adrien Quatennens?
Ah ben, je le reconnais quand même plus en Anne Hidalgo qu'en Adrien Quatennens, c'est ce que vous voulez me dire. Après, j'ai d'autres divergences sur d'autres sujets. Mmh. Enfin, sur celui-là, si Anne Hidalgo s'est exprimée, moi, je suis sur une ligne de fermeté.
Oui, vous vouliez créer une nouvelle fédération de gauche. Vous en êtes où, ça avance ?
Oh, j'en suis à l'idée que je suis pour promouvoir l'union à gauche, parce que ça, j'ai parfaitement compris que c'était nécessaire, et en termes électoraux, et en termes politiques. Mais cette union, elle doit être refondée en termes programmatiques, en termes de projets. Aujourd'hui, le projet de la NUP, si je le regarde dans les détails, que ce soit les 250 milliards de dépenses budgétaires par an, que ce soit la position vis-à-vis de l'Europe, que ce soit les grandes positions au niveau international qu'on vient d'évoquer, ça ne me convient pas.
Donc pour vous, la gauche, c'est perdu ? Cette gauche, elle est perdue ? Vous êtes là pour la relever de ses cendres ? C'est votre mission ?
C'est pas qu'elle est perdue, c'est qu'elle doit se... j'allais dire se refonder, mais surtout réfléchir sur ce qu'elle peut et ce qu'elle doit faire ensemble.
Alors, lors d'une réunion en juillet à Arnage, vous réunissiez cette gauche, justement, opposée à la NUPES. Bernard Cazeneuve, vous savez, l'ancien ministre, il a déclaré « La priorité pour nous est de créer une alternance crédible pour ne pas condamner le pays à la droite et à l'extrême droite. » Mais ces propos...
Ce qui est vrai, c'est que si vous êtes dans une gauche radicale ou radicalisée, et que vous jouez la tension, voire la confrontation, voire des grands mouvements de rue, puisque Jean-Luc Mélenchon a d'ores et déjà annoncé une grande marche au mois d'octobre. Le risque qu'il y a, et ça s'est vérifié dans l'histoire démocratique de notre pays, c'est que quand vous organisez le désordre, eh bien vous avez en réaction l'ordre, et l'ordre le plus radical.
Mais alors vous qui voulez l'ordre, en quelque sorte, pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas suivi après les élections ? C'est fou ! Non.
Pourquoi est-ce qu'on ne va pas suivre après les élections? Parce que les élections viennent de se passer, et qu'elles se sont passées comme elles se sont passées. Anne Hidalgo a fait 1,7%, j'avais demandé un débat...
Mais déjà avant, c'était mal barré son...
Oui, mais justement, le vrai sujet...
Mais pourquoi on ne vous a pas suivi avant aussi dans ces cas-là? En gros, pourquoi on ne vous suit pas? Qu'est-ce qui se passe à gauche?
Pourquoi on ne suit pas? Parce que je pense que le fait que François Hollande ne soit pas présenté en 2017, et qu'il n'ait pas pu défendre ou pas voulu défendre son bilan, a été le sujet de construction d'une antithèse au quinquennat de François Hollande. Mais cette antithèse, elle était logique dans le sens où chacun devait pouvoir discuter de ce qui avait été bien fait et de ce qui avait été mal fait. Mais que cette antithèse et ce rejet du quinquennat de François Hollande n'a conduit à aucun travail nouveau.
Donc c'est la faute à François Hollande ?
C'est pas de la faute à François Hollande. Je vous dis, et vous me demandez quel est le processus, et que moi, qui ai été ministre de François Hollande, qui a été un proche de François Hollande, et qui a assumé une partie de ce bilan, tout en ayant aussi des choses critiques à dire, eh bien, j'étais emmené dans cette idée qui consistait à vouloir tourner une page. Moi, je comprends qu'on veuille tourner une page. Faut-il être capable d'en écrire une autre ? Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'autre page décrite, sauf celle qui a été un accord décidé rapidement, juste après les élections présidentielles, après les élections présidentielles, où Jean-Luc Mélenchon, de manière très claire, avait gagné à gauche cette élection présidentielle.
Stéphane Le Foll, tout le monde est parti par la suite chez Renaissance, mais pas vous. Vous n'avez pas quitté le bateau. On vous a sollicité ?
Moi, je ne quitte pas le bateau parce que je reste dans l'idée que pour changer les choses, il faut être capable de porter un débat et de dire « je quitte le bateau », c'est toujours la même histoire. Faut-il être capable de dire d'abord pourquoi et sur quelle base et vers quoi on veut aller ?
Mais Stéphane Le Foll, est-ce qu'on vous a sollicité pour aller chez Renaissance ?
Chez Renaissance, non.
Oui. On ne vous a pas sollicité.
Contacts. Bien sûr, il y a des gens qui sont venus me voir à plusieurs reprises en disant ceci, en disant cela. Moi, ça ne m'intéresse pas.
Emmanuel Macron, on vous a sollicité ou pas alors ? Parce qu'ils sont venus vous voir, mais en même temps, non.
Personne n'est venu me dire est-ce que tu veux rentrer au gouvernement ? Non,
voilà. Il faut qu'il y ait des gens
qui discutent de l'avenir et d'un certain nombre de choses, bien entendu. Et sur cette base très simple, je considère que Emmanuel Macron et le macronisme arrivent d'ores et déjà à la fin d'un cycle. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas de souffle nouveau au niveau d'Emmanuel Macron. Mmh. C'est la fin d'un cycle pour une raison aussi très simple, c'est que de toute façon... C'est le dernier mandat d'Emmanuel Macron et qu'il serait complètement absurde de considérer que c'est avec Emmanuel Macron qu'il faut reconstruire la gauche.
Oui, donc en fait, un poste de ministre de l'Agriculture pour vous. Un poste de ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, sous un quinquennat Macron, ça aurait été absurde pour vous.
Moi, j'ai été 5 ans ministre de l'Agriculture. J'ai fait le plus long bail du ministre de l'Agriculture de toutes les Républiques. Donc j'ai été à ce poste-là. Mais non, c'est pas, je ne recommence pas. Je suis maire du Mans, président de la métropole du Mans. Moi, je veux participer et travailler à la refondation, réfléchir à la gauche. Je rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Renouer avec la France des Lumières », dans lequel j'expliquais exactement ce que je pensais être un projet avec des lignes programmatiques pour la France. Je n'ai pas pu en discuter au sein du Parti Socialiste puisque le débat m'a été refusé. Très bien. Le constat que je fais, c'est qu'à la fin de tout ce cycle, eh bien, tout est à revoir. Tout est à refaire.
D'accord.
Et en particulier sur les questions européennes et les questions internationales.
Donc ce nouveau parti, hein, dont vous nous parlez en quelque sorte entre les lignes, ce nouveau parti, il va s'appeler comment ? Est-ce que vous allez être à la présidence de ce nouveau parti, de cette fédération de gauche ?
Vous anticipez. En même temps que vous posez des questions, vous êtes en train d'anticiper sur les choses. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas un nom, je n'ai pas créé un nouveau parti, puisque vous le disiez tout à l'heure, je suis resté au Parti Socialiste. Par contre, je vais mener ce débat, parce que je pense qu'aujourd'hui, la stratégie dans laquelle... Elle va mener à une impasse. Et on le voit bien avec les sujets qu'on venait d'évoquer. Et on le verra aussi au moment des européennes de 2024. Quel est le choix qu'on fait ? Est-ce qu'on cherche et est-ce qu'on choisit de rester avec Jean-Luc Mélenchon pour parler de l'Europe ? Ou est-ce qu'on essaye de revenir à une ligne européenne, même s'il y a des choses à dire sur l'Europe, il y a des choses à changer, mais l'Europe en tant que construction aujourd'hui, en particulier si je parle des grandes questions internationales et de la transition énergétique, c'est un sujet majeur.
Mais
et
Stéphane
on peut
Le Foll,
pas rester là où on en est aujourd'hui.
Stéphane Le Foll, vous êtes sur Europe 1, il est 19h30 presque, enfin il est 19h28 et 45 secondes pour être très, très clair avec
très
vous. Il y a plein d'électeurs de gauche qui nous écoutent très probablement maintenant, ils se posent des questions, mais alors, nouveau parti, pas nouveau parti, comment est-ce qu'on fait pour allier ? Où est-ce qu'on va ? Là, vous ne leur donnez pas beaucoup de billes non plus. Il va y avoir un nouveau parti, oui ou non ? Est-ce qu'ils vont se retrouver en vous, dans cette nouvelle vision ?
Pour répondre à votre question, je vais créer
soyons
clairs.
Vous allez créer un nouveau parti ?
Écoutez, faites pas la journaliste typique.
Mais arrêtez, Stéphane Le Foll, je
vous
pose des questions, vous bottez en touche. Dites-moi.
Qu'est-ce que ça signifierait aujourd'hui ? Vous m'avez posé la question, vous êtes resté au Parti Socialiste. Je vais mener un débat au sein du Parti Socialiste, mais j'ai parfaitement conscience que si on reste sur les lignes sur lesquelles on est aujourd'hui, pour moi, il y aura un sujet majeur.
Donc vous parlez d'une refonte de ce Parti Socialiste. Est-ce que c'est la création ? Je vais vous le dire autrement. Est-ce que c'est l'évolution d'un nouveau Parti Socialiste et par conséquent, la création d'un nouveau, le Parti Socialiste nouveau, je ne sais pas, est-ce que c'est ça ?
Mais c'est évidemment la création de quelque chose de nouveau. Le Parti Socialiste aujourd'hui, il est dirigé par Olivier Faure. Voilà, ça je vais l'apprendre sûrement pas à vos auditeurs, ils le savent. On est dans un accord avec la NUP. On voit bien que Olivier Faure lui-même maintient cet accord et cette ligne stratégique tout en ayant une position qui n'est pas tout à fait celle, si j'ai bien compris, de Jean-Luc Mélenchon. Combien de temps cela va-t-il durer ? Je dis aujourd'hui à tous ceux qui m'écoutent, il y aura de toute façon une clarification à avoir. Et cette clarification à avoir, il faut l'anticiper. Mmh. Et est-ce que le parti est capable de se changer, ce Parti Socialiste ? Je crains que non.
Donc voilà, c'est quoi qu'il faut faire ? C'est une grande consultation des partisans du Parti Socialiste pour savoir si on se transforme, on crée quelque chose d'autre. C'est quoi ? C'est d'abord un grand débat autour de cette question ?
C'est d'abord de mettre sur la table un certain nombre de points de clivage avec la NUPES aujourd'hui, la NUPES aujourd'hui, et avec ce qui a été la stratégie d'alliance. Il y a des points de programme, il y a des points de projet qui ne correspondent pas à ce qu'ont été les valeurs du Parti Socialiste, à l'histoire du Parti Socialiste et à ce que l'on doit faire pour l'avenir à la fois de la France, de l'Europe et du monde. C'est bien ça le sujet. La ligne de Jean-Luc Mélenchon n'est pas une ligne qui corresponde en quoi que ce soit à ce qu'a été les positions traditionnelles du Parti Socialiste avec François Mitterrand, avec Lionel Jospin, avec François Hollande. Mmh. Donc ces questions-là vont être au cœur du débat. Alors est-ce que le Parti Socialiste est capable d'accepter et de changer de
ligne ? Est-ce que le Parti Socialiste, Stéphane Le Foll, est capable d'accepter qu'un bon nombre des gens qui votaient pour lui est allé du côté NUPES ? Que ça répondait à des besoins, à des attentes, peut-être plus de ce côté ?
Il y a une partie des gens qui sont allés à la NUPES, il y a une partie des gens aussi qui ont voté blanc. Je vous rappelle que le vote blanc, c'est 4 millions de voix aujourd'hui. Mmh. Et ça, c'est un fait exceptionnel. Donc, c'était des gens qui n'étaient pas satisfaits de l'offre politique telle qu'elle leur était présentée. Et qu'aux législatives, il y a aussi un taux d'abstention qui est un des plus forts qui existe. Donc il y a un problème. Et que ceux qui ont voté NUPES en se disant bah, « de toute façon, aujourd'hui, il y a l'union de la gauche, au moins, on va essayer d'avoir une gauche à l'Assemblée nationale mmh. », mais est-ce qu'ils ont voté en totalité pour l'application du programme et du projet mmh. de la NUPES ? Je crois que non. C'est bien ça qui me confirme et qui fait que j'ai envie de porter ce débat, parce que je pense que dans l'électorat, il y a beaucoup plus de nuances.
Donc vous briguez une présidence de cette nouvelle fédération de gauche dont vous nous parlez, si vous avez envie de porter ce débat.
Mais je ne suis pas là pour... C'est toujours compliqué. Je ne suis pas là pour dire...
Oh, vous êtes langue de bois ce soir, Stéphane Le Foll.
Mais je ne suis pas en langue de bois. Moi, je n'ai pas l'habitude d'aller en langue de bois.
Ah bah alors si une présidence de cette fédération de gauche. Alors oui, non, peut-être.
Mais non, j'ai pas cette ambition aujourd'hui de dire je vais présider la fédération que d'accord. je pense devoir créer. Ça serait ridicule. Au nom de quoi je m'autodignerais président de la future fédération. J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que par contre, là, je vais mener un débat de fond. Et sur le fond. Et sur
alors, sur le fond, le portefeuille des Français, il est quand même sur toutes les bouches et dans tous les esprits. Qu'est-ce que vous pensez de ce paquet de lois pouvoir d'achat ? Et budget rectificatif, est-ce que pour vous, il est conséquent, il est suffisant pour relever la France avec l'hiver qui frappe à notre porte ?
Avec l'hiver qui frappe à notre porte, on va avoir des sujets énergétiques qui vont être différents de ceux du pouvoir d'achat. Déjà le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas quelle va être l'évolution aujourd'hui du prix de l'énergie, en particulier sur le pétrole et l'essence. Ça, c'est un vrai point majeur pour le pouvoir d'achat. Bon, il a flambé, ça a l'air de se stabiliser, voire de baisser un peu. Deuxième point, il y a des choses qui ont été faites qui étaient absolument nécessaires. Et des revalorisations en particulier, d'un certain nombre d'aides, de soutiens qui étaient indispensables dans le contexte d'aujourd'hui. Il fallait sûrement faire plus. Le vrai sujet, ça va être la loi de finances. Parce que c'est là qu'on va voir aussi qu'il va y avoir des affectations de milliards d'euros là où il ne faudrait pas les affecter. Je pense en particulier que le gouvernement va remettre sur la table ces 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production pour les entreprises. Pour moi, aujourd'hui, ce sont 10 milliards d'euros qui ne servent pas les grands objectifs sociaux et en même temps économiques et écologiques.
Sur la dernière minute, Stéphane Le Foll. Il faut vraiment que je vous pose cette question de cette chaleur harassante, de cette sécheresse. Vous avez été ministre de l'Agriculture. Les agriculteurs, ils vont mal. Le manque d'eau, la sécheresse, ça ne les aide pas du tout. Une pénurie de lait qui arrive très bientôt. Concrètement, on les aide comment ? Qu'est-ce que vous auriez fait ?
Bon, d'abord, il y a des aides directes qui doivent être mobilisées, en particulier pour les questions du fourrage vis-à-vis de l'élevage. Mais on est sur un sujet majeur, puisque la sécheresse, là, elle est bien plus forte, bien plus profonde, partout sur le territoire, que ce qu'on avait pu connaître jusqu'ici. Donc, il y a tout un tas de dispositifs qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais après, il y a comment on essaye de s'adapter mieux à la récurrence de cette sécheresse. Et ça, c'est un problème qui est beaucoup plus, j'allais dire, profond, avec des modifications de modèles de production, en particulier en allant vers l'agroécologie. Je vais prendre juste un exemple pour ceux qui m'écoutent. C'est qu'il y a des labours aujourd'hui, en particulier les labours de printemps, pour les maïs, qui retournent la terre et qui font évaporer l'eau qu'elle a dedans lorsqu'il y a eu des pluies d'hiver. Mais il vaudrait mieux éviter, changer un certain nombre de pratiques pour maintenir l'humidité des sols et garantir à partir de là une meilleure production, en particulier fourrage pour les animaux.
Merci.
Mais au-delà de ça, il faut aujourd'hui, bien entendu, des mesures de soutien aux agriculteurs.
Merci beaucoup Stéphane Le Foll, maire PS du Mans, ancien ministre de l'Agriculture. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir sur Europe 1. À suivre, faut-il repenser notre alimentation au moment où le portefeuille des Français est dans tous ses états et dans tous les débats, le prix de l'alimentation, lui, ne fait qu'augmenter. Alors est-ce qu'on va arriver à joindre les deux bouts ? Est-ce qu'on va réussir à survivre ? C'est une sacrée rentrée qui nous attend. Allez, on en parle, à suivre sur Europe 1.